Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Édouard Philippe place l'acte 2 du quinquennat sous le signe de l'urgence. Le Premier ministre promet une accélération écologique de l'action du gouvernement. Il a obtenu la confiance de l'Assemblée. Dans ce journal, nous reviendrons largement sur son discours de politique générale avec Rosalie Lafarge et notre invité, le politologue Jean Petaut. Violents incidents à Hong Kong. Des dizaines de milliers de manifestants demandent au pouvoir local d'annuler le projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. Il y a au moins 70 blessés. On fera le point avec Nathanaël Charbonnier. La fin du procès des indépendantistes catalans à Madrid. Les 12 dirigeants séparatistes ont pris la parole aujourd'hui pour défendre la cause catalane. Le reportage de Mathieu Le Taillac. Sans surprise, l'Assemblée a voté ce soir la confiance à Édouard Philippe à une très large majorité, 363 voix pour, 163 contre. Dans le détail, la majorité LREM Modem a approuvé comme un seul homme le Premier ministre, avec le renfort des centristes ralliés à Emmanuel Macron. Du côté des votes contre, on retrouve la gauche unanime, le Rassemblement National et 81 des 104 députés LR. Lors du premier vote de confiance en 2017, seuls 23 députés Les Républicains avaient voté contre Édouard Philippe, les autres avaient choisi l'abstention vigilante. Venons-en maintenant au détail du deuxième discours de politique générale du Premier ministre, l'acte 2 du quinquennat Macron. Un maître mot pour résumer l'intervention d'Édouard Philippe, l'urgence, à commencer par l'urgence écologique, Rosalie Lafarge.
Édouard Philippe n'est pas un écolo de la première heure et il le reconnaît, mais il l'assure, ça y est, il s'est converti.
Au cœur de l'acte 2, il y a d'abord l'ambition écologique. Il nous faut inventer un modèle économique où la sobriété énergétique, les transports propres, la saine alimentation, le recyclage progressent beaucoup plus vite que le taux de croissance. C'est ma conviction et je veux être jugé sur les actes.
Ça passe par une accélération du rythme des réformes en la matière. Une loi anti-gaspillage est par exemple promise pour septembre. Mais ce que le gouvernement appelle l'acte 2, c'est aussi toujours beaucoup d'économies. Reçu 5 sur 5, le message d'exaspération fiscale des Français, clame Édouard Philippe à la tribune, baisse d'impôts à la clé. Sur les retraites, il confirme ce qui était annoncé, les mêmes règles pour tous, mais encore avec cette ambiguïté sur l'âge de départ.
Nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans en ne bougeant pas l'âge légal, mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps.
Les applaudissements de la majorité se feront plus francs au moment de l'annonce sur la PMA, mise au programme du Parlement fin septembre. Peu de réactions en revanche quand Édouard Philippe ouvre la porte à un report de la réforme des institutions après les sénatoriales. Enfin, le Premier ministre insiste sur un point, le nécessaire changement de ton et de façon de faire du politique.
Le sentiment d'urgence nous a parfois conduit à prendre des décisions rapides, pas assez concertées. Nous sommes et nous demeurerons des réformateurs. Mais nous devons davantage associer les Français à la fabrique de nos décisions.
L'opposition critique dénonce globalement un recyclage de mesures déjà annoncées et rien de concret sur la façon de les financer.
Rosalie Lafarge, merci. Et justement, côté réaction, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a pris la parole à la tribune au nom des Insoumis. Jean-Luc Mélenchon, plutôt discret depuis l'échec de la liste de Manon Aubry aux européennes. Cet après-midi, il a retrouvé les accents du tribun pour fustiger la politique gouvernementale.
Nous ne céderons pas. Quoi qu'il arrive, nous ne céderons pas. Non pour nous si mal récompensés de nos dévouements. Non pour nous, mais pour les 9 millions de pauvres du pays, pour cet enfant sur 5 qui vit dans la pauvreté, pour les 4 millions de mal logés, pour les 600 morts annuels sur leur poste de travail, pour les 2000 décès dans la rue, pour les 5 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, pour les 30% de Français qui renoncent à des soins pour des raisons financières. Notre patrie restera les humiliés et les opprimés. Non pour nous, mais pour le changement radical dans la façon de produire, d'échanger, de consommer, qui est la condition de notre survie collective. Bref, non pour nous, mais non pour une étiquette politique, mais pour le monde que voulons faire naître, en dépit de vous et contre vous.
Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée, propos recueillis par Sophie Delpont. D'autres réactions au discours d'Édouard Philippe, le compte n'y est pas. Pour le socialiste Olivier Faure, le compte n'y est pas sur les trois urgences écologiques, sociales et démocratiques, estime le patron du PS. Du côté des Républicains, Éric Ciotti dénonce un cortège de mesures non financées et pas un mot du Premier ministre sur la baisse de la dépense publique, ajoute sur Twitter le député LR. Enfin, Marine Le Pen n'a pas du tout apprécié apprécié qu'Édouard Philippe parle d'extrême droite à propos du succès du Rassemblement national aux européennes. La patronne du RN accuse le Premier ministre d'insulter les millions de Français qui ont voté pour la liste Bardella. Invité de ce journal, Jean Petaut, politologue à Sciences Po Bordeaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean Petaut, Édouard Philippe place l'acte 2 du quinquennat sous le signe de l'urgence. Comment vous analysez ce terme d'urgence employé par le Premier ministre ?
D'abord, le fait que ce soit l'écologie qui soit au premier rang et en haut de l'agenda politique dans cette sorte, comme on dit, de to-do list des choses qui sont à faire, à quoi ressemble systématiquement un discours de politique générale, c'est plutôt une réponse au vote des Français qui ont mis la liste Jadot en troisième position aux européennes, et on sent qu'il y a une volonté peut-être du gouvernement et du président de la République derrière le gouvernement d'essayer de récupérer aussi, comme ça s'est fait pour d'autres électorats, cet électorat écologiste. Et on voit que c'est plutôt ça qui semble la priorité. Alors l'urgence, c'est aussi, je crois, de produire des actes qui ne soient pas simplement et uniquement symboliques dans la perspective de la prochaine élection importante qui va être l'élection municipale de mars 2020.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu aussi de la part d'Édouard Philippe des signaux envoyés aux électeurs de droite ?
Alors, je pense que c'est plutôt un discours qui était à la fois vert et sociétal. Alors, au chapitre des messages vers la droite, on peut citer ou évoquer la confirmation de la baisse des impôts, qu'une partie de la classe moyenne ou de l'électorat de droite ne peut que recevoir positivement. Mais on ne peut pas classer, par exemple, ou ranger dans cette catégorie de signaux l'annonce qui est un peu surpris de l'inscription de la loi sur la PMA pour un débat en septembre qui montre une certaine accélération sur ce dossier et qui est plutôt destiné à satisfaire un électorat, on va dire, de sensibilité de gauche.
En revanche, la réforme constitutionnelle est reportée. Édouard Philippe semble la renvoyer après les sénatoriales de septembre 2020. Comment vous analysez ce report ?
Alors, il y a deux lectures possibles. Je crois que Gérard Larcher a tweeté dans la soirée que le gouvernement miserait peut-être sur un changement de majorité au Sénat en septembre 2020. Vous savez que ce sont les grands électeurs qui élisent les sénateurs et que ces grands électeurs sont très majoritairement constitués et composés des maires et des représentants des conseils municipaux, donc qui vont être renouvelés en mars 2020. Donc, d'une certaine façon, Gérard Philippe a fait un peu de politique en disant « mais voilà, le gouvernement recule ». La deuxième lecture, c'est plutôt de se laisser du temps pour négocier avec le Sénat et aussi de faire que cette réforme, intervenant après les sénatoriales, libère en quelque sorte de la pression, par exemple dans laquelle il est, ou sur laquelle il est, ou sur laquelle est Gérard Philippe, mais Gérard Larcher,
D'accord.
Le président actuel du Sénat, pression que lui met une partie de sa majorité de droite, et en particulier, je pense, à Bruno Retailleau. Et donc, d'une certaine façon, c'est peut-être aussi une manière de laisser le temps sénatorial pour proposer au Sénat un texte qui serait recevable et acceptable, car vous savez que toute réforme constitutionnelle, pour avancer, doit être d'abord acceptée, adoptée en termes identiques dans chacune des deux chambres.
Dernière question, très rapidement, Jean Petaut. Je suis inénervable, a dit Édouard Philippe. Est-ce que c'est la marque de fabrique du Premier ministre, le calme dans la tempête ?
Oui, certainement, ce côté un peu, j'allais dire, phare, c'est quelqu'un qui a une taille assez impressionnante, donc c'est quelqu'un qui est susceptible effectivement de à la fois de voir les choses de haut, mais aussi d'être vu de loin. C'est surtout aussi une bonne punchline de communicant, parce que inénervable, c'est un terme qui est presque imprononçable, on pourrait dire, et donc forcément c'est retenu et la preuve, c'est qu'on en parle à l'instant, et ça fait l'objet, effectivement, d'un commentaire. Donc, c'est plutôt un bon coup, parce que ça sera un peu le marqueur de ce discours lexicologique ou lexical de ce discours de politique générale, comme on a connu jadis d'autres mots qui pouvaient, en quelque sorte, résumer une intervention politique.
Jean Petaut, politologue à Sciences Po Bordeaux, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. La nuit est tombée à Hong Kong, mais l'ambiance reste lourde après les violences de la journée. Des dizaines de milliers de manifestants rassemblés devant le Parlement hongkongais pour dénoncer le projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. L'examen du texte a été reporté, mais le projet n'est pas abandonné. La police a chargé la foule. Il y a plus de 70 blessés selon les services de santé. Les manifestants accusent les autorités hongkongaises d'être à la solde de Pékin. On fait le point avec vous, Nathanaël Charbonnier.
La question est de savoir jusqu'où les autorités chinoises vont accepter d'aller. Hong Kong n'est pas tout à fait la Chine, mais n'est plus également cette enclave britannique qui, jusqu'en 1997, vivait avec les mêmes valeurs que l'Occident. Pour l'heure, c'est encore la liberté de manifester qui permet aux jeunes de se mobiliser. Sur cette ambiance envoyée par notre correspondante Florence de Changy, on sent en tout cas que la tension est palpable. Confirmation avec ce jeune homme qui trouve refuge sur une passerelle et qui explique « Je veux protéger cet endroit, cette ville va mourir à cause de cette loi. On doit faire quelque chose pour sauver cette ville, c'est tout. » Et quand on lui demande « Vous pensez que cela changera quelque chose ?» il répond « Peut-être pas, mais on fait de notre mieux. On a fait tout ce qu'on pouvait, au moins on pourra dire que nous avons été des citoyens responsables. » Hong Kong fragile, Hong Kong en danger sous les gaz lacrymogènes et les balles en caoutchouc des policiers, et Hong Kong qui ne fera pas forcément le poids malgré ses richesses et son statut spécial face à un régime chinois déterminé, c'est en tout cas l'avis de la spécialiste de la Chine contemporaine et de la dissidence chinoise, Marie Holzman.
C'est évident que Hong Kong joue encore un rôle économique très important pour la Chine. Mais d'un autre côté, le gouvernement chinois a cumulé des réserves en milliards de dollars. Il n'est plus à ça près maintenant. S'il considère que la révolution, on pourrait dire pratiquement la révolution hongkongaise, risque de faire tache d'huile en Chine, il ne va pas penser à la finance de Hong Kong, il va penser à sa propre survie.
En attendant, Hong Kong peut compter sur le soutien d'Angleterre. Le ministre britannique des Affaires étrangères a appelé Hong Kong à écouter les inquiétudes de ses citoyens.
Nathanaël Charbonnier. L'ancien premier ministre algérien Ahmed Ouyahia est en prison ce soir. Il a été incarcéré dans le cadre des enquêtes anticorruption qui visent les proches d'Abdelaziz Bouteflika. Ahmed Ouyahia est effectivement un proche du président déchu. Il avait été limogé le 12 mars dernier pour tenter d'apaiser la contestation en Algérie. Trois semaines plus tard, c'est Abdelaziz Bouteflika qui démissionnait après 20 ans de pouvoir. En Espagne, le procès des indépendantistes catalans s'est terminé aujourd'hui à Madrid devant la Cour suprême espagnole. 12 responsables politiques accusés de rébellion pour avoir organisé le référendum d'autodétermination du 1er octobre 2017. Après leurs avocats ce matin, les séparatistes ont pris la parole cet après-midi pour défendre la cause catalane. Mathieu de Taillac.
Chaque accusé a fait usage du droit au dernier mot. Tous, bien sûr, ont résumé la plaidoirie de leur avocat. Ils défendent une dernière fois ce qu'ils considèrent leur liberté, celle par exemple d'organiser un référendum, malgré son interdiction par la justice, pour permettre à leurs citoyens de s'exprimer. Et puis, chacun personnalise. L'ex-vice-président de la région et actuel leader de la gauche indépendantiste, Oriol Junqueras, a été le plus bref et le plus politique.
Lo mejor para todos.
Le mieux pour la Catalogne, pour l'Espagne, pour l'Europe, pour tout le monde, ce serait de remettre cette question sur le terrain politique, d'où elle ne devrait jamais être sortie.
D'autres ont ajouté au registre politique celui des émotions personnelles. Josep Rull, ex-conseiller régional à l'aménagement du territoire.
Vous avez décidé de m'empêcher de voir grandir mes deux enfants. Vous n'allez pas empêcher que je leur donne un témoignage de notre engagement pour que demain ils puissent vivre dans une république catalane où il sera impossible de mettre quelqu'un en prison simplement parce qu'il défend pacifiquement ses idéaux.
Le verdict est attendu à l'automne prochain.
Mathieu de Taillac, correspondant à Madrid. La police russe a réprimé aujourd'hui à Moscou une manifestation de soutien au journaliste d'investigation Ivan Golunov. Au moins 423 manifestants ont été interpellés, dont de nombreux journalistes et le leader de l'opposition, Alexei Navalny. Une répression qui intervient au lendemain de la libération surprise d'Ivan Golunov. La justice russe a en effet annulé les accusations de trafic de drogue qui le visé. La météo demain en France, ensoleillée au sud et à l'est, encore instable sur le reste du pays. Dans l'après-midi, des averses orageuses toucheront une vaste zone comprise entre l'Aquitaine et les Ardennes. Les températures minimales resteront fraîches de 6 à 17 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 16 et 29 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.